bon pour la santé.
Elle n'a pas seulement percé avec le web, puisqu'on a fait sa rencontre en pleine télé, à Tout le monde en parle, en 2008. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'on rencontrait une personnalité publique qui, en toute transparence, parlait de sa transition pour être une femme comme elle l'était, au plus profond d'elle-même. On reçoit Michel Blanc, un genre à part, qui, au-delà de son combat contre la discrimination basée sur l'identité de genre et contre le suicide que vit tant de monde de la diversité sexuelle, a su si souvent interpeller des politiciens et des gens d'affaires en étant un gourou du web. Elle en parle souvent. Devenue lesbienne, elle a pourtant gardé l'amour de sa vie, Bibitte électrique, une relation souvent salvatrice pour celle qui a dépassé la dépression en devenant une femme de première force. Accueillez celle qui a de la force dans la voix, qui vulgarise comme personne le monde du web et qui dit que le bon genre, c'est bon pour la santé.
Ici Catherine Bourderon, avec le docteur François Baruel, on plonge dans l'univers de Michel Blanc. Bonjour Michel.
Excusez-moi, je suis bouche bée, c'est tellement une belle introduction que... Je pense que je n'ai plus rien dit.
Ben non.
Vous on va arrêter l'émission.
Vous allez
tout est dit.
On va faire une émission aujourd'hui à partir de vos préoccupations santé. On accueillera pour ce faire les chroniqueuses invitées. Claudine Larivière, nutritionniste sur manger même quand on brasse beaucoup d'affaires. Maître Laurent Trépanier-Capistran, avocat de juriste à domicile, qui va nous parler de cette lutte à la discrimination pour motif d'identité et d'expression de genre. Et finalement, un psychologue qui vous a peut-être sauvé la vie, Michel Campbell.
Oui. Alors bonjour Michel, rebonjour Michel. Pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont en situation d'handicap, vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont accessibles pour tous?
S'ils ont les outils pour lire le web. Et si les gens qui font le web ont la gentillesse de remplir les textes alternatifs qui sont associés aux images, pouvant permettre aux personnes non-voyantes, par exemple, de comprendre quelle est l'image qui est présentée sur un site web, parce qu'évidemment, les outils vont lire les textes, mais les images, à moins qu'elles ne soient décrites dans ce qu'on appelle les alternate texts, ils n'auront aucune idée de quelle est l'image qui est présentée. Alors, ça va dépendre évidemment du webmaster, ça va dépendre des technologies qu'on a choisies, si le site est accessible ou pas aux personnes non-voyantes, par exemple. Mais ça va dépendre aussi si on permet, avec la technologie qu'on a choisie, de grossir les caractères et plusieurs autres fonctionnalités qui permettraient aux personnes handicapées d'utiliser le web. Alors, les technologies sont là, c'est rien que souvent, les développeurs sont imbéciles. Alors ça...
Mais est-ce qu'il y a encore...
Ça, c'est difficile à...
Oui, c'est sûr.
Hein, ça,
Mais on vous comprend. On comprend d'ailleurs la situation. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à cet égard? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation à faire?
Oui, mais énormément. Surtout, puis vous savez, en même temps, avant d'arriver en studio, il y a quelqu'un qui me parlait de politique. Et moi, je disais que un des débats de ma vie, c'est pour qu'on ait un plan numérique pour le Québec.
C'est vrai.
Ça fait 10 ans que je milite pour qu'on ait un plan numérique pour le Québec, justement pour aider toute la société à prendre ce virage numérique-là, qui est une révolution qui est aussi importante que la révolution industrielle qui avait commencé dans les années 1910. Et si on prend le virage, bien, on pourra être... un des endroits dans le monde où vraiment on peut gagner très bien sa vie grâce au numérique, où on fera partie du tiers-monde numérique, c'est-à-dire ceux qui profitent des jobs qui ont été créés par d'autres, mais comme consommateurs plutôt que comme producteurs. Moi, je suis très, très inquiète pour mon petit-fils et je suis très inquiète pour la société. Vous savez, d'ici 2030, beaucoup des emplois qui existent présentement n'existeront plus. Les chauffeurs de camions n'auront peut-être plus d'emploi, les chauffeurs d'autobus, les chauffeurs de taxi. Ce n'est qu'un des nombreux exemples qu'on peut donner de personnes qui vont complètement perdre leur emploi. On va faire quoi, ces gens-là? C'est tout de suite qu'il faut qu'on se pose des questions. C'est tout de suite qu'il faut qu'on aide ces gens-là à se réorienter vers des emplois qui seraient animés par le numérique. Puis on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ce qui est très bien, mais l'intelligence artificielle ne va faire vivre qu'une petite poignée d'individus. Alors, on fait quoi du reste de la société?
Absolument. Et on sent dans votre discours, dans votre âme, dans vos viscères, que vous êtes une militante. À un moment donné, il y a un médecin qui vous a dit « Il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse ». C'est au cœur de votre vie, de donner au suivant, de changer les donnes. Comment ça se fait concrètement? Est-ce que vous êtes un modèle? Est-ce que vous voulez inspirer les autres par votre parcours, par vos expériences?
Non, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, je sais que dans les faits, par défaut, oui, j'inspire les autres. Je sais que, je disais dernièrement dans une conférence que à ma mort, ce sera pas l'argent que j'ai fait ou mes succès professionnels que j'aurai en tête. Ce serait le fait que, parce que j'ai ouvert ma gueule, je sais que j'ai sauvé des vies. Et ça, je suis fier de ça. Et vous savez, en même temps, ce qui est lourd à porter, c'est que je suis devenu une forme de symbole. Et les symboles, on aime ça les abattre. Parce que j'ai quand même eu trois dossiers criminels, de harcèlement criminel.
C'est épouvantable.
La dernière personne a passé 6 mois en dedans.
C'est vrai. Et on va interviewer un avocat à cet égard.
Et cette personne-là, ça prenait le groupe tactique d'intervention pour aller l'arrêter tellement elle était violente.
Il y a beaucoup de...
Et elle voulait me faire sauter avec une cocotte minute à la sortie d'une de mes conférences.
Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus.
Il y en a beaucoup de fêtes. Mais tout n'est pas fait, puis évidemment,
ce qui est très touchant aussi, c'est que vous épousez plusieurs causes. Vous avez été porte-parole longtemps de Suicide Action. On n'a pas vraiment... Il y a encore beaucoup de gens qui savent pas quoi faire en état de détresse. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Pour leur donner un peu de lumière.
Ben, je n'ai pas été porte-parole, j'ai été ambassadrice pour Suicide Action. Okay. J'ai été beaucoup impliqué dans les organisations LGBT, je le suis encore d'ailleurs. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, comme avait dit mon médecin, ça m'avait surpris sur le coup, là, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse. Mm-hmm. Vous savez, être LGBT, ça vaut, quand vous faites un coming out, vous allez perdre. Mais vous allez aussi beaucoup gagner. Mm-hmm. Immanquablement, le changement fait peur. Mais le changement ouvre d'autres voies. Et oui, le rejet, c'est difficile à vivre. Là.
C'est
ça. Je veux dire, bon, on est ici chez Canalem qui s'intéresse aux personnes qui vivent avec différents types de handicap. Et qui ont aussi vécu le rejet. Alors, vos auditeurs savent de quoi je parle. Là.
Oui, c'est sûr.
Cela étant dit, il y a quand même moyen, puis évidemment, il fait beaucoup de thérapie là, pour apprendre à gérer le mépris, à gérer le rejet. C'est difficile. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'habite en forêt, sur le bord d'un lac et d'une rivière, dans une forêt de pins centenaires. Puis vous savez, c'est niaiseux, là, on va dire ça, là, mais moi, j'ai un pin en particulier que j'appelle Georges et auquel je vais me reposer au pied de l'arbre. Et les Amérindiens disaient que de s'asseoir au pied d'un grand arbre, évidemment, ça régénère. Puis vous savez, au bord d'une rivière, ben il y a les ions négatifs ou les ions positifs, je sais pas trop. En tout cas, il y a des ions qui, supposément, nous font du bien.
Pour l'appeler Georges, il représente quoi?
Je sais pas, mais c'est mon pin favori. C'est un grand pin, plusieurs fois, qui est centenaire. Il fait au moins 35 mètres de haut. Là, c'est le plus beau, je trouve. Puis j'en ai plusieurs sur mon terrain, mais lui, il est en face de moi quand je suis sur ma terrasse. Puis je l'aime. Fait que je parle, puis je dis que je l'aime.
Docteur Baruel, dans un article du Devoir que nous avons lu, il disait vraiment qu'il y avait un impact des arbres sur la santé physique.
Oui, il y a un impact. Alors, c'est une hypothèse. On a découvert ça au Japon, c'est qu'il y a des nouvelles techniques de méditation, ou du moins de sédation. On se promène dans la forêt et il semblerait qu'il y ait non seulement, bien sûr, c'est cet aspect tranquillisant de la forêt qui est calme et qui nous remet en face de nous-mêmes. Hein, parce que, en fait, c'est ça. Mais il y a en plus des molécules qui sont sécrétées par les arbres et qui permettrait de se calmer. Voilà, c'est ça.
Puis voyez-vous, ce matin, je lisais un article à propos de la biophilia. Mm-hmm. De plus en plus, des organisations de haute technologie commencent à mettre des plantes exotiques dans leurs bureaux et meubler ces bureaux-là de plantes parce que ça a un effet extrêmement positif sur, sur la force. Donc, il y a plusieurs manières de se ressourcer et à la limite de se cacher de la méchanceté. Et la forêt, ben, c'est un des endroits que moi, j'ai eu la chance... d'utiliser comme un outil de gestion du rejet, de méchanceté, c'est ça.
Michel, vous avez donc subi deux interventions. Est-ce que c'est donné à tout le monde de changer de sexe? Est-ce qu'il faut être en santé?
Tout à fait, parce qu'évidemment, il y a une grande série de tests qui se font avant une opération. Il faut que tu aies la santé pour subir ces opérations-là. Il y en a qui ne peuvent pas changer de sexe parce qu'ils ne sont pas assez en santé pour ça. Et entre autres, un des tests qui m'avait surprise, c'est un test de coagulation. On veut savoir à quelle vitesse tu coagules, parce qu'évidemment, c'est une opération qui va entraîner des grandes pertes sanguines. Et en réalité, j'ai eu trois opérations. Hein. J'en ai eu plus que trois. J'en ai eu peut-être une quinzaine, mais parce que ça se faisait d'un coup. Par exemple, ce qu'on appelle la chirurgie de féminisation faciale implique plusieurs opérations. Alors, j'ai été 8 heures sous anesthésie totale et l'opération a duré 8 heures. Et ils ont arrêté parce qu'après 8 heures, là...
Ça fatigue.
Oui, c'est ça. Et là, ils ne voulaient pas non plus risquer de me perdre. Là. Donc, il y a une des choses qu'ils devaient faire qu'ils n'ont pas fait parce que là, ils ne pouvaient plus. T'sais. Pour ce qui est de la vagino, ben, j'ai eu la vaginoplastie et l'augmentation mammaire en même temps. Et étonnamment, la vagino, ça dure 1h30. Mais évidemment, le docteur Bassard, qui est une des trois sommités mondiales en vaginoplastie et qui est aussi un de mes clients, c'est une sommité. Hein, alors, les vaginaux, là, il en fait 3 par jour. Là, c'est pas... d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une petite gag?
On peut faire un petit gag. censurez pas.
Le docteur Brassard m'avait écrit pour me dire qu'il voulait m'avoir comme consultant. Et moi, j'ai dit, ça tombe bien, moi, je vais les avoir comme chirurgien. Alors, quand j'ai rencontré dans son bureau, il dit, on commence par vous, on commence par moi. J'ai dit...
Pourquoi?
J'ai dit, on va commencer par vous, parce que si on commence par moi, je vais être trop gêné pour vous dire à quel point votre site web est poche.
C'est très bon.
Alors, on a commencé par moi, puis on a commencé par lui. Puis après ça, quand il s'est rendu à moi, il dit, Madame Blanc, je vais vous observer, baissez vos petites culottes. Alors, il me regarde, il dit, oh, je serais pas obligé de faire de greffe de peau.
Michel.
Le docteur, bien que fait.
Mais rire, c'est bon pour la santé aussi. Hein? D'ailleurs, vous avez sorti un livre en 2012, fort intéressant. On parle que ça vous, ces opérations vous ont sorti de la dépression quand même.
Et non, j'ai quand même sorti de la dépression, parce que vous savez, dans le processus diagnostique de la dysphorie d'identité de genre, c'est une très, très grave dépression. Et cette dépression-là, mais évidemment, pour l'évaluer, pour évaluer si vous êtes transsexuel ou pas, on ne vous donne pas d'antidépresseur, parce qu'on veut vous avoir le plus naturel possible, puis évidemment, éliminer toutes les autres potentialités qui vous feraient croire que vous êtes une femme dans un corps d'homme, tu sais. J'ai perdu 30 livres, puis je pleurais, puis ça allait pas bien, puis etc., etc. Puis au terme duquel, la prise d'hormones est une autre validation diagnostique externe. Parce que quand tu commences la prise d'hormones, ou la dépression s'amenuise et disparaît, ou pas. Alors, si la dépression ne s'amenuise pas, bien là, c'est signe que peut-être qu'il y a eu un trouble dans le processus diagnostique, et on le recommence. Alors, moi, dans mon cas, quand j'ai commencé les hormones, je me sentais vraiment mieux, puis... Effectivement,
c'est un test thérapeutique.
Ouais. Voilà. Mais Michel, ce qui m'intéresse, là, c'est, ou qui nous intéresse, comment sont les avant et les après? Comment on, dans l'état d'âme, c'est comment y a-t-il un gros avant, un gros après?
Ben oui,
beaucoup de petits avant, beaucoup de petits après, ça fonctionne comment?
Oui, oui, puis tu sais, c'est un processus, hein.
Pas une illumination, j'imagine.
Non, parce que je veux dire, je savais, j'avais 3 ans.
Ah oui, d'accord,
D'ailleurs, c'est mon plus vieux souvenir d'enfance, que j'étais pas dans le bon corps. Sauf que tu passes ta vie à enfouir ça, puis à J'irais avec ça. Et il y a une autre illumination à un moment donné où j'écoutais la télévision avec ma conjointe, puis il y avait une transsexuelle qui passait avec ses deux enfants. Puis ma conjointe, qui savait que j'avais certains enjeux, m'a demandé « Bon, Michel, ça te fait quoi d'écouter ça? » Et spontanément, j'ai dit « Si tu mourrais, je changerais de sexe.
Ah » ouais.
Et quand j'ai dit ça, bien, mon cerveau est parti à 200 km/h et c'est là que je suis tombé en dysphorie d'identité de genre. Donc, il y a eu des moments cruciaux. Puis après ça, bien, le monde me pose tout le temps la question « C'est quand que tu as fait ta transition? » Mais quand est-ce que j'ai fait ma transition? Est-ce à 3 ans? Est-ce quand j'ai eu les vaginaux? Est-ce quand j'ai eu la chirurgie faciale? Est-ce quand j'ai pris...
Ah, c'est progressif, en fait.
Ah, oui, c'est ça.
C'est un tas d'éléments qu'on juxtapose.
Et voilà. Donc, y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a un moment. Tu sais, il y a des moments. Puis ces moments-là, bien évidemment, à un moment donné... Puis encore là, tu sais, aujourd'hui, comme je suis devenu une forme de symbole, malheureusement, je ne serai jamais une femme. Je veux tout le temps être dans l'imaginaire des gens transsexuels. Ouais. Et quand on parle de moi, c'est qu'on parle de moi comme la transsexuelle. Oh, c'est rare qu'on parle de moi comme la femme.
Mais est-ce que c'est blessant?
Blessant parce que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'ai fait mon changement de sexe. Puis dans l'œil des autres, je ne suis pas encore arrivé. Alors, après 10 ans, quand est-ce que je vais arriver, moi, là? Quand est-ce que j'étais une femme, tu sais? Dans mes yeux à moi, j'étais une femme. Mais dans les yeux des autres, je vais être l'éternel transsexuel jusqu'à ma mort, tu sais? Alors, c'est lourd à porter. C'est comme, bon, il y a des gens, qui nous écoutent, qui ont des handicaps. Puis, évidemment, si on les décrivait constamment par leur handicap, est-ce qu'ils seraient heureux de ça? Je pense pas. Parce qu'on est, entre autres, un handicap, mais on est tellement d'autres choses, tu sais.
Mais il y a aussi la résilience. Vous êtes rempli de résilience. Ouais,
t'as beau être résiliente. Ils sont dit tout le temps. Tu sais, en psychologie, il y a un concept qu'on appelle la microagression.
C'est vrai.
Mm-hmm. Bon, puis, tu sais, on m'appelle souvent encore monsieur, tu sais. Puis des fois, c'est inconscient, c'est pas méchant, mais ça fait mal pareil. Puis quand c'est méchant, ben, ça fait mal encore plus. Puis là, le monde dit, ouais, mais c'est pas grave. T'sais. Ben non, c'est vrai, c'est pas grave, c'est une goutte d'eau. Mais 2000 gouttes d'eau, ça fait un méchant sillon. Tu sais, à un moment donné, le sillon, il reste là, puis ces agressions-là, ils s'additionnent. T'sais.
C'est vrai.
Fait que, tu sais, oui, c'est beau la résilience, mais la résilience, tu sais, ça résout pas tout. Là, t'sais.
Merci, Michel.
Bonjour Michel Campbell.
Bonjour.
Nous recevons aujourd'hui Michel Blanc, que vous connaissez probablement, et qui est une transsexuelle. Et nous avons donc, vous remercions beaucoup de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez nous définir la dysphorie de genre?
La dysphorie de genre, c'est une personne qui réalise, parfois durant l'enfance, parfois durant l'adolescence ou même la vie adulte, qu'elle n'est pas dans le bon corps. Donc, une personne génétique mâle peut réaliser qu'elle est en fait femelle ou une femme, et le contraire. Donc, un homme qui naît à la naissance comme homme, mais qui réalise au cours de sa vie qu'il est dans le corps d'une femme. Et ça, que cette situation-là, évidemment, est souffrante.
C'est ça, ça provoque une grande souffrance, j'imagine.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles vivent, ces personnes-là?
Ben là, ça peut dépendre. Hein. Il y a des personnes qui vont souhaiter une transition de genre complète, c'est-à-dire des changements hormonaux, des changements au niveau physique ou physiologique. Donc, c'est pour un transhomme, ça peut être quelqu'un qui veut une phalloplastie, donc un pénis, la reconstruction ou la construction, devrais-je dire, d'un pénis.
Oui.
Ou, par exemple, une transfemme, ben, une vaginoplastie, donc la fabrication d'un vagin.
D'accord. Et en fait, ça se limite à l'aspect physique, mais d'un point de vue psychologique, il faut, j'imagine, il faut un grand accompagnement.
Oui, certainement. Oui, parce que quand la personne fait sa transition de genre, évidemment, ce n'est pas un contexte homogène dans le sens que des personnes qui viennent me voir, qui viennent, mettons, une transfemme qui va arriver habillée en femme, mais il y a d'autres personnes qui vont se présenter à mon bureau habillées comme un homme, mais qui souhaitent être une femme. Alors, tout le soutien qu'on leur donne, c'est au niveau de l'adaptation. Ça peut être l'adaptation au travail, l'adaptation sociale en général. Ça peut être aussi des interventions face à la famille, face aux enfants. Il y a des gens qui sont des parents, donc comment s'y prendre si on a des enfants, par exemple, dans la petite enfance versus des adolescents. Au niveau de la famille, bien évidemment, c'est les frères, sœurs, les aider à développer des stratégies pour que ceux-ci ou celles-ci les comprennent. Et il y a les parents, évidemment, qui parfois réagissent très mal. Donc, tout l'accompagnement, si je peux résumer ça, c'est un accompagnement qui vise à promouvoir l'adaptation.
Comment est-ce que devraient réagir les parents? Si un enfant faisait cette demande de changement ou de réadaptation sexuelle de son genre?
Ben, l'aspect. Le parent idéal, lorsqu'un enfant lui parle de quelque chose comme ça, moi, ce que je suggérerais aux parents, c'est d'être faire de l'écoute active, d'abord. Donc, être à l'écoute, faire verbaliser l'enfant, essayer de comprendre sa souffrance, essayer de comprendre d'où ça vient, ce malaise, et de ne pas porter de jugement, mais plutôt d'être à l'écoute. Ça, c'est le parent idéal. Évidemment, c'est pas la réalité n'est pas...
J'imagine.
Il y a des parents qui vivent ça extrêmement mal.
Ouais.
On a tout le continuum, hein, des parents qui vivent ça extrêmement mal et qui refusent systématiquement, ils ne veulent pas en entendre parler, ils vont même punir l'enfant. Aux parents qui sont plus à l'écoute et qui vont essayer de comprendre, vont essayer de lire sur le sujet, aller voir un professionnel et donc être plus soutenus par... ce qui se passe dans la collectivité transsexuelle, par exemple, il y a des groupes d'aide ou d'entraide pour les parents. Alors, il y a des gens qui vont se mobiliser pour trouver des couples qui vont ou des familles qui vont se mobiliser pour bien accueillir la souffrance de l'enfant. Mais dans d'autres cas, c'est le contraire, malheureusement.
Et lorsque la transformation a lieu plus tard, j'imagine que ça doit complètement bouleverser l'ensemble des connaissances de la personne, que ça doit être un déchirement dans beaucoup de cas et que ça doit être très compliqué en réalité. Parce que la personne, sa vie n'est pas faite, mais en tout cas, elle est déjà bien avancée. Donc, il faut en casser une partie pour en reconstruire une autre.
Oui, oui. Des fois, c'est extrêmement dramatique, Alain. Pour la personne qui fait la transition, des fois, c'est tellement souffrant qu'il préfère ne plus vivre. Pour la famille, parfois, c'est extrêmement déchirant aussi, surtout si on prend le contexte, par exemple, d'un conjoint qui dit à sa conjointe « Je t'annonce maintenant, à 55 ans, que je veux être une femme. » parce que je suis une femme, évidemment, ça peut être vécu très, très difficilement, parce que certaines conjointes vont dire, mais c'est de la trahison, tu aurais dû m'en parler avant, avoir su, on se serait pas marié, bon, etc. Il y a des fois, c'est des drames terribles.
Parce qu'en fait, ça ne réapparaît pas, ça n'apparaît pas auparavant, il n'y a pas des signes avant-coureurs tout de même.
Il y a des gens qui laissent aucun signe avant-coureur. La conjointe est complètement stupéfaite, ou le conjoint est stupéfait. Puis d'où le drame aussi, parce qu'ils m'ont dit, ben, j'ai jamais vu de signe, puis la personne va répondre, ben, j'ai caché les signes, j'ai caché ça toute ma vie, je souffrais silencieusement toute ma vie. Et ça cause des réactions évidemment très importantes chez le ou la conjointe selon la situation dans laquelle on se trouve.
En effet, oui.
Ouais, c'est très difficile.
J'imagine, en effet, c'est extrêmement difficile.
Ouais. Oui, surtout, mettons, si on a une femme qui est très, très attirée par son conjoint, pour toute la dimension masculine ou virile de cet homme-là.
C'est ça.
Que cet homme-là dit « je deviens une femme », là, c'est très difficile.
Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide dans ce cas-là? En tout cas, pour la personne qui change de sexe.
Bien, il y a de l'aide, par exemple, on peut trouver de l'aide sur Internet, dans le réseau Internet, où on peut parler, par exemple, il y a un blog qui s'appelle « D'un autre genre ». C'est des gens qui peuvent donner des informations. Il y a des organismes, à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle... le nom m'échappe, mais c'est un organisme qui aide des personnes transsexuelles. Il y a aussi des professionnels. Si on cherche des professionnels, il y a un certain nombre de professionnels, par exemple, à Montréal et ailleurs au Québec, et un peu partout dans le monde, il y a des professionnels qui sont spécialisés pour aider les personnes qui font des transitions de genre ou qui souffrent d'une dysphorie de genre.
Je vous remercie beaucoup de toutes ces lumières que vous nous offrez, Michel Campbell. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Stéthoscope.
Dans la rubrique Stéthoscope, nous allons vous présenter aujourd'hui l'extrait d'un article paru dans Santé mentale au Québec, 2015, de Michel Doré, dont le titre est « Repenser le sexe, le genre et l'orientation sexuelle ». Voici le résumé. Des travaux pionniers développés au cours des dernières décennies permettent de concevoir les notions de sexe, de genre et d'orientation sexuelle de façon à dépasser le traditionnel modèle binaire. De manière générale, les professionnels de la santé et des services sociaux tardent toutefois à prendre acte de ce changement de paradigme qui fait une large place à la diversité humaine et beaucoup moins à la marginalisation ou à la pathologisation des différences. Dans le présent article seront notamment présentés les travaux d'Alfred Kinsey, de Sandra Bern et d'Anne Fausto-Sterling, portant respectivement sur l'orientation sexuelle, le genre et le sexe. Il sera proposé d'inclure leurs contributions et celles de leurs successeurs dans un modèle tenant compte à la fois de la diversité et de la fluidité susceptibles d'être présentes dans les identités et les expressions de soi relatives au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle. Mots-clés, identité, sexe, genre, orientation sexuelle, diversité. Voici maintenant quelques vignettes cliniques. Nathalie, 12 ans, que ses parents décrivent comme un tomboy, refuse depuis son tout jeune âge de se vêtir en fille. Ce qui provoque un problème à l'école privée où elle entreprend son cours secondaire. On y exige en effet qu'elle porte la tenue obligatoire réservée aux filles, composée d'une jupe et d'un blazer. Or, Nathalie insiste pour porter uniquement le pantalon. Assigné garçon à la naissance, Sacha,
13 ans, affirme être une fille et réclame d'être ainsi considérée par ses parents et par son école. Sacha ne considère pas pour autant être une personne transsexuelle, étant déjà une femme dans son esprit. L'enfant souhaiterait être traité sur le plan hormonal pour ne pas avoir de puberté masculine et ainsi gagner du temps avant de pouvoir, une fois adulte, entreprendre une transition de sexe. Dominique, 15 ans, est né intersexué. Sur le conseil de médecin, ses parents l'ont élevé en la considérant comme une fille. À la puberté, sa physionomie se masculinise. Dominique croit que c'est la raison pour laquelle, après avoir fréquenté des garçons, elle est de plus en plus attirée par les filles. Elle se demande si elle ne serait pas un garçon hétérosexuel plutôt qu'une fille bisexuelle. Extrait de l'introduction. Chercher des réponses et des solutions aux trois situations précédentes exige de remettre en question la logique binaire selon laquelle on serait homme ou femme, masculin ou féminin, hétérosexuel ou homosexuel. Exclusivement, le sexe, le genre et l'orientation sexuelle étant définis par opposition de caractéristiques contraires. Voici un autre extrait de l'article qui définit le genre, le sexe et l'orientation sexuelle. Le sexe d'une personne désignera essentiellement les caractéristiques physiologiques qui font en sorte qu'elle a été désignée à sa naissance comme étant de sexe mâle, femelle, indéterminé ou encore comme étant intersexuée. L'identité de sexe fait, quant à elle, référence à la conscience ou à la conviction d'appartenir à une catégorie de sexe. Selon le psychiatre Robert Stoller, un des premiers à avoir défini ce terme, l'identité de genre désigne les degrés différents de masculinité et de féminité que l'on peut trouver chez une personne, y compris du point de vue de cette personne, me permettrai-je d'ajouter. L'identité de genre ne doit pas être confondue avec le rôle de genre, c'est-à-dire les conduites et les attitudes que la personne adopte pour exprimer son identité de genre. Voici maintenant un extrait de la conclusion. La diversité sexuelle n'est assurément pas un phénomène nouveau. Elle devient toutefois plus visible à mesure que les droits et libertés, les avancées législatives, les mentalités et les connaissances évoluent. Reconnaître cette diversité et plus encore, apprendre ce qu'elle nous enseigne ne peut qu'améliorer la qualité de toute relation d'aide, quelle qu'en soit la nature. A fortiori, les intervenants en santé mentale ont beaucoup à faire pour sortir définitivement des carcans qui ont produit tant de dégâts par le passé chez les jeunes de la diversité sexuelle. C'est non seulement une question de santé publique, la marginalisation et l'exclusion étant, on le sait, nuisibles à la santé mentale, mais aussi d'équité et de justice sociale. Je vous invite à vous référer donc à l'article de Michel Doré qui s'appelle « Repenser le sexe, le genre et l'orientation sexuelle » paru dans « Santé mentale au Québec » en 2015. Us a warpion, shoulders too broad for a girl, keeps you reminded, helps you remember where you come from. You want them to notice the ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot, they hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coaster, wish I could have spent the whole day alone with you. With you. With you. You got no cunt in your strut, you got no hips to shave, and you know it's obvious, but we can't choose how we're made. You want them to notice the ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot, they
hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone with you. With you. With you. You want them to notice the ragged ends of your summer dress. You want them to see you like they see every other girl. They just see a faggot. They hold their breath not to catch the sick. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone. Rough surf on the coast, I wish I could have spent the whole day alone with you. With you.
Nous sommes en compagnie du docteur François Baruel, de Michel Blanc aussi de maître Laurent Trépanier-Capriste. Bon, répétez après moi. Est-ce que vous pouvez donner votre nom de famille?
Je vous en prie. Donc,
Je suis pas capable.
Laurent Trépanier-Capistran, faites-vous-en pas. Donc, il y a beaucoup... je le répète souvent dans une journée, disons.
OK. Donc, avocat chez Juriste à domicile. Donc, c'est un organisme. Mais non, on peut pas vous appeler à toute heure du jour et de la nuit.
Non, on préfère entre 9 et 5,
généralement. Je pensais qu'on pouvait vous appeler avec le titre organisme. Et donc, vous êtes spécialisé dans les droits et libertés.
Oui, j'ai un intérêt, en fait, pour les droits et libertés. Ma pratique est relativement diversifiée de par les gens qui nous contactent chez Juriste à domicile. Mais oui, un intérêt particulier pour les droits et libertés, les chartes, entre autres.
Bon, plusieurs motifs existent pour discriminer les personnes. On peut imaginer plein de gens qui subissent des préjudices. Y a-t-il... au niveau de la protection des gens qui sentent discriminés, y a-t-il une charte, y a-t-il quelque chose dans la loi qui peut protéger ces gens-là?
Mais absolument. En fait, il y a plusieurs outils législatifs qu'on peut utiliser, là, qui sont à notre disposition selon le contexte, en fait. D'abord, il faut le dire, il y a effectivement les chartes. Donc, il y a la charte québécoise, entre autres, et la charte canadienne. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Mais il y a également les outils qu'on peut utiliser, notamment des recours en diffamation, par exemple, ou encore des recours en atteinte à la vie privée, selon le contexte. Et puis, il y a également des outils qui réfèrent davantage au droit criminel. Donc, il y a évidemment là, l'interdiction de propagande haineuse. Donc, ça, c'est un nouveau motif qui a été ajouté récemment par le palier fédéral. Mais il y a également autre chose intéressante, toujours en droit criminel, lorsqu'on parle de détermination de la peine. Donc, une fois que quelqu'un a été déclaré coupable, s'il a commis des infractions criminelles et que ces infractions-là ont été motivées par des préjugés ou par une attaque qui était particulièrement dirigé vers les personnes trans, à ce moment-là, le juge, dans la détermination de sa peine, va pouvoir considérer ça comme une circonstance aggravante, donc pouvoir utiliser ça pour prononcer une peine qui serait plus alourdie, plus sévère.
Est-ce que ça arrive souvent, ces cas de figure?
En fait, les cas de figure, ça, c'est une disposition qui est très récente. En fait, ça a été modifié récemment par le gouvernement fédéral. Donc, il va falloir voir comment les avocats, comment les juges vont s'approprier ça. Et si, notamment, les avocats de la Couronne, là, le directeur des poursuites criminelles et pénales, va mettre ça à profit. On peut penser que oui, mais encore aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, puisque c'est très, très récent. On parle de 2017.
Est-ce qu'il est délicat là-dedans, quand vous parlez de diffamation pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui veut poursuivre ma diffamation, là, on va parler de 10, 12 000 $ de frais d'avocat.
Là, c'est dispendieux.
Puis là, on n'est même pas encore... on n'est pas rendu à terme. Les chances de gain sont extrêmement difficiles. Et si jamais vous perdez votre cause, allez en appel, allez jusqu'en Cour suprême. Vous avez besoin d'avoir les poches profondes pour poursuivre quelqu'un en diffamation.
Tout à fait.
Et l'autre problématique, c'est... au niveau criminel, même si vous avez raison, il faut que le DPCP prenne votre plainte. Et pour que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, prenne votre plainte, il faut que la police prenne votre plainte. Et quand on parle de harcèlement criminel, plus souvent qu'autrement, surtout si on parle de harcèlement lié à Internet, les policiers ne sont pas formés pour ça. Et pour eux, ce qui arrive sur le web, c'est pas sérieux. Donc, ils vous retournent de bord. Et tant que vous n'avez pas un numéro de dossier dans un corps de police, vous n'avez pas de dossier. Donc, il n'y a rien qui se fait. Dans tous les cas, c'est sûr que si on parle des escouades spécialisées du SPVM ou de la Sûreté du Québec, ils sont vraiment capables de faire leur travail. Mais il faut d'abord qu'un policier d'un poste de quartier vous donne un numéro de dossier pour que ça monte là.
Tout à fait.
Donc, c'est ça comment on fait? Comment on fait pour amorcer une démarche? Parce que ça a l'air mission impossible à travers les dires de Michel.
Mais tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on ne se le cachera pas. Le système juridique est complexe puis il est peu accessible. Il y a des gens qui travaillent pour le rendre plus accessible, mais il y a quand même des alternatives là, à ça. Il y a notamment, si on parle de quelqu'un qui se sentirait victime de discrimination ou qui pense avoir été...
De lui casser les deux jambes.
Moi, je peux pas conseiller ça, moi.
Non, ah, OK.
Mais donc, c'est possible de faire affaire d'une part, quand on parle de discrimination, avec la Commission des droits de la personne au Québec. Donc ça, la Commission offre évidemment un système d'accompagnement au travers de la plainte, donc pour rédiger la plainte. Mais également, si la plainte est retenue par la Commission ensuite, la Commission va défendre, après avoir proposé un processus de médiation, va quand même défendre la personne s'il y a eu refus, en fait, de procéder à ce processus-là, va pouvoir défendre la personne devant le Tribunal des droits de la personne, et ça de façon gratuite. Donc ça, c'est une alternative, je pense. Mais également, si on se concentre, si on se tourne plus au niveau criminel, parce que vous souleviez, Mme Blanc, des doutes là, par rapport à ça, avec raison par ailleurs, mais il faut dire, en fait, qu'il y a possibilité, si les policiers négligent un petit peu la plainte, de déposer une plainte privée. Évidemment, là, c'est préférable peut-être de faire affaire avec un avocat, mais il y a possibilité d'aller court-circuiter un peu, là, si je reprends vos termes, ça, et puis également être accompagné lorsqu'on dépose auprès des policiers, peut faire changer les choses. Parce qu'effectivement, quand on parle de... Là, je mets des guillemets là, à la maison, mais quand on parle de plus petites infractions, et c'est là que je mets mes guillemets, parce qu'il n'y a pas de petites infractions, mais parfois, on peut avoir l'impression qu'on est considéré de la sorte, ça peut aussi, effectivement, être approprié d'être accompagné, que ce soit par un conseiller légal ou simplement par un membre de l'entourage qui va être là pour supporter et pousser là, pour faire la plainte, pour déposer la plainte.
Mais c'est très précis. Là, vous êtes un avocat... dans les droits et libertés, c'est tellement délicat comme sujet, tellement un sujet sensible. Est-ce que tous les avocats peuvent prendre un tel dossier? Ça prend quand même beaucoup de préparation.
Ça prend beaucoup de préparation, effectivement. Et puis, au Québec, en ce moment, les avocats ne sont pas limités à un certain champ de pratique, mais ils ont le devoir et l'obligation de prendre des dossiers qu'ils considèrent être dans le cadre de leurs compétences. Et donc, si un avocat se sent moins compétent à prendre un dossier, là, il y a un devoir de réserve et de vous diriger peut-être vers une autre personne, un autre avocat qui pourra mieux vous conseiller dans le dossier. Mais il n'y a pas de chasse gardée comme telle là, au niveau des avocats. Donc, on n'est pas un avocat, par exemple, limité à pratiquer dans un certain domaine. Et par ailleurs, il y a l'effet d'expérience là, qui entre en ligne de compte. Donc, quelqu'un peut pratiquer toute sa carrière en droit criminel, par exemple, ou en droit civil.
Okay. Est-ce que c'est plus du droit criminel dont il s'agit, Michel?
Ben, on a parlé des deux droits, là, pas mal. On a parlé du criminel, si jamais on parlait de harcèlement criminel.
Ouais.
Et on a parlé de civil, si on parle de diffamation.
De diffamation, d'atteinte à la vie privée, et de moi, discrimination.
Et moi, j'ai passé dans les deux processus. Plusieurs fois.
C'est vrai, vous avez eu des tentatives de meurtre.
Pas tentatives de meurtre, j'ai eu des menaces de mort.
Dédramatisons quand même.
SOS avocat.
Non. Les mots sont importants.
Donc c'est vrai, donc des menaces de mort.
Et j'ai aussi poursuivi en diffamation un certain journaliste, trou de cul, qui s'amusait à me caricaturer en femme à barbe. J'ai perdu. Le juge avait des difficultés avec la compréhension de certains éléments techniques Internet. Et j'aurais pu aller en appel, mais évidemment, après un certain temps et après 12 000 $ de mes poches pour une poursuite de 25 000, je me suis dit que c'était peut-être plus sage de prendre ma perte et de fermer ma gueule. Au criminel, évidemment, c'est le DPCP qui poursuit. Mais comme j'ai expliqué, il faut que ton dossier se rende. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, dépendamment du poste de quartier dans lequel tu habites. et de la célérité des policiers et des services à prendre ou pas ta cause, tu sais.
Ce que vous soulignez là, c'est important hein, de spécifier que c'est le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui porte les accusations. Donc le processus criminel, on peut se plaindre à la police qui va amasser de la preuve et une fois qu'ils ont un dossier, ouais. ils vont le transférer au DPCP. Et c'est au DPCP,
de prendre la décision.
Constitué d'avocat de la couronne, de prendre la décision. Est-ce, ouais. Est-ce qu'on a les éléments nécessaires pour entamer une poursuite criminelle?
Tout à fait. D'ailleurs, dans un des dossiers, le DPCP ne voulait pas porter de plainte. Et évidemment, ils t'appellent pour te dire qu'ils prendront pas de plainte. Et moi, je me suis assis avec eux autres et j'ai convaincu que la plainte était bonne. Et finalement, ils ont dit « Ah, on n'avait pas vu ça. Alors, on va prendre la plainte. » Et la personne a eu 6 mois de prison.
Donc
c'est ça. Ça prend une certaine volonté du côté. C'est pas évident. Vous savez, j'ai fait aussi une grosse étude pour Conditions féminines du Canada sur la cyberagression sexuelle au Canada, sur les statistiques, les enjeux, les pistes de solutions. Il y a tout un pan de crimes reliés au web qu'on ne touche pas réellement. Puis malheureusement, ben, c'est souvent une question de compréhension et aussi une question de budget. Si on parle de crimes comme le revenge porn, la pornographie vengeresse, si on parle d'un paquet de crimes à caractère sexuel sur le web, et malheureusement, ce sont souvent les femmes et les jeunes femmes qui en sont victimes, ben, ces crimes-là, tant qu'il n'y aura pas des pressions sociétales pour exiger qu'il y ait des ressources financières qui soient allouées à ce type de crimes-là, ben, on n'en parlera pas. Puis vous savez, on a mis beaucoup d'efforts sur la pédopornographie, ce qui est tout à fait légitime, mais la pédopornographie correspond à peu près à 3% des crimes Internet. Donc, il y a 97% des crimes Internet qui ne sont pas de la pédopornographie. Et là, tout d'un coup, on dit que il y a de plus en plus de pédopornographes. Non, il n'y en a pas plus. C'est rien qu'on a mis du cash pour...
On
les voit, là. Avant ça, ils étaient invisibles. Alors, tu sais, on parle de moi aussi, MeToo, tu sais, mais MeToo, ça existe dans le virtuel aussi. Et contrairement à ce qui existe dans le réel, dans le virtuel, il y a un effet multiplicateur, il y a un effet 24 sur 24. Parce que quand c'est dans ta vie réelle, non virtuelle, mais quand t'es rendu chez vous, tu fermes la porte, t'as quand même un cocon de protection. Mais sur le web, tu sais, c'est à l'infini.
24 heures sur 24, ça joue sur 7, effectivement.
Merci beaucoup, Maître Laurent Trépanier Capistran.
Nous sommes toujours avec Michel Blanc, notre invité, Catherine Bourderon et moi-même, et nous allons parler maintenant de diététique et de nutrition avec Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine.
Ça va bien, docteur Barlet?
Bonjour.
Ça va bien, la
vie? Bonjour Claudine.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, et vous?
Oui, bonjour Michel.
Ah ben bonjour.
Bonjour Catherine aussi.
Donc nous recevons Michel Blanc, qui est une femme d'affaires très occupée en fait.
Oui.
Et qui a certainement des tas de rendez-vous et des tas de choses à faire pendant la journée. Mais
moi, savez-vous, je suis très très occupé, là, mais je travaille de chez moi. Okay. Je suis une bonne cuisinière, fait que c'est pas pire hein, quand même.
Ouais, quand même.
Quand même.
Quand même.
Mais je suis pas très très nutrition par exemple.
Non.
Ah ben alors justement, on va peut-être pouvoir donner à Michel des renseignements et des conseils de nutrition.
Oui, j'avais vraiment hâte de parler de ça avec toi, Michel. le point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que souvent, justement, on va être entrepreneur. Moi aussi, j'ai mon bureau à la maison, donc je travaille de la maison. Puis même si on travaille de la maison, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place de penser à se faire à manger ou de préparer nos repas le week-end ou de vraiment mieux s'organiser justement pour bien carburer nos journées. Puis en fait, je suis vraiment contente de couvrir ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est mon expertise. Et souvent, quand on est dans la performance, quand on est dans la productivité, on oublie qu'à la base de tout ça, mais il y a notre santé. La santé, ça passe justement par des saines habitudes alimentaires qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Puis c'est de se ramener un peu à l'essentiel, de vraiment penser que ben, comment justement on va carburer notre journée, qu'est-ce qu'on va manger aussi. Puis, ben, tu sais, je ne sais pas pour toi, Michel, mais j'imagine que là, je te tutoie, je pense que c'est correct. Mais je ne sais pas si
on n'a pas le choix quand
même. Oui, ben là, c'est ça, on va s'adapter à partout d'ici. Mais est-ce que tu es souvent quand même dans les meetings, malgré le fait que tu travailles de la maison? Tu es souvent aussi dans des événements. Donc, tu sais, dans ces contextes-là, on doit quand même jongler avec un emploi du temps qui peut être assez...
Bon, je t'avoue qu'aujourd'hui, là, pour m'en venir ici, j'étais coincé par le temps. Alors, je suis arrêté dans une petite place, puis je me suis pris un jus de pomme et je me suis pris un sandwich jambon fromage chauffé. Bon. Alors, j'étais coincé. Je t'avoue aussi que moi, je suis une carnivore invétérée et que je me suis récemment acheté un fumoir et que j'ai fait mon propre bacon et que je fais mon smoke meat et que j'ai fait un paquet, j'ai fait du saumon fumé, je fais un paquet d'affaires que j'aime et je me dis, et j'ai même fait un blog de cuisine, si jamais ça tente d'aller tester à quel point je suis à côté de la traque. Ça s'appelle recettes au pluriel du dimanche.com et moi je dis, c'est des recettes pour se faire plaisir. Si vous voulez manger des graines, vous mangerez ça la semaine, moi la fin de semaine, écœurez-moi pas. Je mange de la bouffe pour avoir du plaisir. Mais évidemment, puis nous autres, justement, moi j'aime beaucoup cuisiner, puis je cuisine le dimanche, et ma spécialité, c'est les plats mijotés, parce que la beauté avec les plats mijotés, c'est qu'ils sont facilement congelables, et qu'on peut les portionner et cuire en les déjeunant tranquillement, puis ça fait de très très bons repas. Et ma conjointe, bien, elle est très très bonne dans les crèmes de légumes. Alors, tu sais, c'est comme si on se complète. Là. Elle a fait les crèmes des légumes, puis elle fait des légumes. Moi, je fais la viande, puis les poissons. Puis,
C'est quoi des plats mijotés?
Des quoi? Des plats mijotés? C'est des plats qui mijotent. Mijotés.
OK, j'ai compris des plumes.
Ah, c'est vrai, vous autres, vous êtes des Français.
On
est
sourds.
Vous autres...
On va jamais s'en sortir. Nous, on connaît le bœuf bourguignon.
Ben, c'est un plat mijoté, le bœuf bourguignon.
Moi, je jette pas les plumes, je les mets dans la couette.
Ben, c'est ça, j'en fais du bœuf bourguignon, c'est très bon. Je fais un paquet de... Et j'ai cuisine asiatique aussi. D'ailleurs, un homard au gingembre. D'ailleurs, le gingembre, je pense que c'est très bon pour la santé. Un homard au gingembre, la seule particularité, c'est qu'il faut qu'il soit coupé vivant. Mais il y a des gens qui vont se scandaliser de ça, sauf que tu y passes le couteau entre les deux yeux et c'est plus humain que de le mettre vivant dans l'eau bouillante. Mais bon,
ça c'est sûr.
Question de point de vue.
Mais tu sais, c'est ça. Puis en fait, c'est pas une question de juger les valeurs de chaque personne. Non, c'est vraiment juste de bien équilibrer justement l'alimentation. Comme tu disais, ta conjointe, elle a bien complété avec les légumes. Tu sais, la préparation des repas, c'est pas tout le monde qui pense à faire ça au préalable avant de commencer la semaine. Fait que c'est vraiment excellent comme stratégie. Puis après, il s'agit juste de bien équilibrer l'assiette. Puis une chose aussi qu'on oublie, c'est que si on est longtemps sans manger pendant la journée, bien, ça peut être contre-productif aussi parce que notre corps, il a besoin en fait de manger plus souvent, mais moins gros, moins lourd, moins des portions qui sont beaucoup moins grandes, justement pour que la digestion a monopolise moins notre énergie pendant la journée. Souvent, on va commencer à travailler, puis on va falloir passer, le temps passer. Puis là, ça fait déjà 5 heures, 6 heures qu'on est assis devant l'ordinateur ou qu'on est en rencontre ou qu'on est en déplacement. Puis là, notre niveau d'énergie commence à diminuer. On a faim, on perd le contrôle. Puis on va vraiment manger des grosses quantités.
Claudine, j'ai une petite question. Est-ce que les hommes ou les femmes d'affaires ont tendance à prendre plus de poids que les autres personnes?
Absolument, absolument. À cause de ce phénomène-là, justement, parce que comme je disais, le temps va passer puis on va oublier de manger à des heures régulières. Puis quand ça va être le temps de manger, bien, on va pas manger les bonnes portions. Puis deuxièmement, tu sais, c'est comme Michel disait, en fait, la sandwich au fromage puis au jambon, c'est pas que c'était un mauvais choix, là, avec le jus de pomme. Dans le fond, c'est une belle façon de carburer. Puis c'était mieux de manger avant de venir faire la chronique que d'attendre encore plus longtemps. Fait que c'était quand même une bonne intervention malgré tout. Il n'y a pas de, problème avec ça. Puis l'effet du manque de sommeil, des fois, si c'est le cas, là, il y a souvent des gens qui manquent de sommeil quand ils sont très occupés. Et aussi le niveau de stress qui va stimuler nos hormones de stress. Et je ne sais pas si vous connaissez le cortisol, là, on n'est pas obligé de rentrer dans les mots techniques, mais cette hormone de stress-là, elle va promouvoir le gain pondéral parce que ça va dire à notre cerveau qu'on a besoin de manger plus
ça
et
donne
ça forme aussi des réserves d'énergie.
Moi, mon gros défaut, et j'en suis fier, c'est que je suis une adepte finie de la pizza. Alors, okay. Moi, j'ai toujours cru que le pizza, c'était le repas le plus équilibré parce que vous aviez les quatre éléments. Vous avez le pain, vous avez la tomate et les légumes, vous avez le fromage et vous avez la viande.
Absolument. Tous les groupes alimentaires sont là, Michel.
Et mais voilà. Alors, c'est pour
fumée,
ça que...
La viande fumée et le saumon fumé.
Ça part, ça. Puis moi, j'ai demandé tout le temps les extras dans ma pizza. Alors, bon, ça...
Bon, voilà. Extra légumes, évidemment.
Extra légumes, évidemment, Michel.
Non, pas tout à fait. Pour être honnête, là, non.
c'est pas tant tout le temps le choix qui est le problème. C'est vraiment, comme je le disais, plus combien qu'on va en manger, puis la qualité aussi, tu sais.
Ouais.
C'est pas grave là, qu'on soit carnivore ou végétarien. Ça, c'est des valeurs qui nous sont personnelles. Tu sais, c'est pas moi de juger ça, mais c'est qu'est-ce qu'on va donner à notre corps au quotidien qui va nous permettre justement d'être plus productif et performant. Là. Ouais.
Sauf que moi, je vois pratiquement pas. Et je mange quand même, moi je pense que je mange des aliments de qualité, là, tu sais, quand on prend des légumes, bon, on essaie d'avoir bio, puis on essaie de varier, là. La pizza, ben j'en mangerai tous les jours, je me restreins pour la pizza, là, tu sais. J'en mange seulement trois fois par semaine.
Ça, c'est super. Pour un fan fini, la pizza,
c'est super. OK, merci beaucoup, Claudine. C'est vraiment très gentil.
Ça a été plaisant.
Merci.
Très plaisant. Au revoir.
Merci, bonne journée.
Thank you.
Bonjour à tous, Catherine Bourdon au microphone avec la somptueuse Michèle Blanc.
Somptueuse?
Ravissante, c'est, gentille.
C'est vrai que je suis en face de toi, mais quand même!
Et Dr Baruel. Alors, on parle santé, évidemment. On aime ça parler de santé. On parle de livres aussi à notre émission. Alors, chaque semaine, on parle d'un livre. Cette semaine, il est question d'un livre qui s'appelle « Vivre en santé » de Dr Alexandra Dalu. Alors, ce livre parle de 100 croyances qui nous font croire qu'on va bien, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, doit-on manger bio ou pas? Ah oui, c'est édition édito. Doit-on manger bio ou pas? Est-ce que le café empêche de dormir? Est-ce que faire du sport fait maigrir? Et Dr Dalu, bon, elle, c'est une médecin spécialiste anti-âge, consultante, elle a étudié à l'Université René Descartes Paris 5, beaucoup travaillé dans les hôpitaux, elle est conférencière, consultante en nutrition. Et elle s'est intéressée à un tas de questions. Et Dr François Bruel et moi avons lu le chapitre 56, méditer. Méditer, est-ce que c'est réfléchir avant de dormir? Alors, dans ce livre-là, évidemment, ils disent non, il faut libérer les tensions, essayer de mettre, coordonner des images pour être bien dans sa peau et relaxer. D'ailleurs, Michèle, en lisant ce chapitre-là, j'ai pensé à vous. Vous avez eu deux grosses anesthésies générales. Lorsqu'on se fait anesthésier, on est très, très, très angoissé, on doit méditer. Vous avez pensé à quoi avant les chirurgies?
Rien.
Mais oui, pas oui. À la mer, il n'y a
moi,
pas
je
des...
Je ne suis pas stressé. Tu sais, le monde me dit, moi, je suis pas stressé. Moi, tu sais, comme, bon, je suis plus stressé par ma vaginoplastie que par ma chirurgie faciale. Non, je suis plus stressé par ma chirurgie faciale que par ma vaginoplastie. Pourquoi? Parce que ma face, c'est ça que le monde voit. Puis, tu sais, moi, quand je vais voir mon médecin, je lui dis, comment tu vas le faire, mon nez? Il me répond, je vais le faire pour qu'il fitte avec ton front, tu sais. Alors, il y avait un gros flou artistique, là, tu sais, on s'entend, là. Il n'a pas dessiné mon visage avant pour me montrer ce qui aurait de l'air après, là, parce qu'évidemment, ils font pas ça, tu sais. Alors, il m'a montré d'autres personnes qui ont fait des chirurgies faciales avant, après. Mais là, tu sais, tu n'as aucune idée vers où ça va. C'est quand même un très, très grand docteur Ben Simon. C'est quand même un très, très grand chirurgien maxillofacial. Puis, il est spécialisé en reconstruction du visage pour ceux qui ont des accidents de char, entre autres. Là. Alors, tu sais, il reconstruit des visages. Alors, puis, il est assez conservateur dans sa chirurgie, ce qui fait qu'il m'a féminisé, mais je me ressemble encore, tu sais. Donc, il n'est pas allé à l'extrême. Tu sais, à un moment donné, il me montre, j'ai des implants dans les joues, il me montre un implant, il dit, gars, ça, c'est l'implant, ça va ressembler à ça, mais je vais choisir un implant, mais que je vois l'os. Alors, tu sais, c'est...
Pendant l'opération. Mais vous n'avez pas médité parce que c'était la question.
C'était un gros chèque en blanc, plus un gros chèque de 25 000 piastres pour me faire opérer, tu sais. Puis après ça, le monde dit, ça a-tu fait mal, tes opérations, tout ça? Je dis, non, ils ont de la bonne drogue. Tu sais, je dis à mes médecins, j'ai pas de problème moraux, là, gars, paye sur le crayon, là, gars, moi, je veux pas souffrir. Tu sais, j'ai le mouet, puis je suis correct avec ça, là, puis, je suis gelé. Tu sais, on va dire que.
Il n'y a pas eu des répercussions d'anesthésie. Justement, docteur Baruel, il n'y a pas de répercussions des anesthésies, il n'y a pas d'effets secondaires?
Ça dépend des personnes.
Surtout, ça dépend de l'âge. En fait, chez les enfants, il y a une répercussion, puisqu'il y a une. On s'est aperçu que chez les petits-enfants, il y a une baisse du cul pendant 6 ou 8 mois et on rattrape le QI après. C'est assez impressionnant.
Dans les anesthésies générales, vous parlez?
Oui, anesthésie générale chez les enfants. Mais chez les adultes, une question de fatigue principalement et on récupère au bout de quelques temps. Il n'y a pas réellement d'effets secondaires durables.
Est-ce que les anesthésies générales sont plus faciles en 2018 que dans un autre temps, il y a 20 ans par exemple?
Oui.
Pourquoi?
Oui, c'est-à-dire que maintenant, on n'utilise plus des produits allergisants, genre le curare, des choses comme ça, qui étaient dangereux, et qui étaient dangereux parce qu'il pouvait y avoir des chocs allergiques, des gens qui sont morts à l'induction anesthésique, comme on dit, à cause du curare. Maintenant, on a des produits qui sont très efficaces, qui sont très modulables, c'est-à-dire qu'on peut faire des anesthésies générales de 10 minutes, 12 minutes, on peut très bien doser comme ça, en fait. Notamment, lorsqu'on fait tout simplement un examen simple, banal et constant, qui est la colonoscopie, c'est une anesthésie générale. Mais elle ne dure que 10 minutes.
Ah, ben moi, j'ai une colonoscopie sans anesthésie.
Oh là 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 là, c'est barbare, ça. Mon Dieu, comment est-ce qu'on fait?
Vous riez nerveusement.
Oh, c'est horrible. Ah oui, non, là, franchement, honnêtement, je ne sais.
Écoute, moi, j'ai un des anciens patrons, là, ouais. qui avait. Puis d'ailleurs,
c'est pas possible. On peut pas faire tout le colon sans anesthésie.
Non, vous faites tout le colon, vous faites l'entrée du colon.
Ah, ben bah, voilà, c'est autre chose.
OK. Non, mais moi, j'ai un de mes anciens patrons qui, lui, dans les médecines alternatives, là, lui, c'est un adepte de l'irrigation du colon. T'sais.
Ah, ça, oui, bien sûr.
Ouais. Il se faisait irriguer le colon, puis moi, je riais au bout. Là, tu me sembles qu'il y a quelqu'un, là, il est payé pour te plugger le colon.
Ouais, ouais, c'est pas mal.
C'est méchant de là. Tu sais quoi, ma vie, toi? Moi, je plug des colons.
C'est un beau métier.
C'est assez particulier.
Pour revenir au livre, François.
Oui, en fait.
Parlant de colon, comment vais-je faire le pont entre le colon puis la mémoire? Dans le livre, ils disent que méditer, ça a un impact sur le vieillissement cérébral. Oui, je l'ai dit, je passe du coq à l'âne. Est-ce que c'est vrai que méditer, ça a un impact sur le vieillissement cérébral?
Alors, en fait, c'est une hypothèse hein, quand même, c'est pas vérifié, mais en effet, c'est le docteur Dalu dit que ça augmente le nombre de synapses, et que, c'est-à-dire de connexions entre les neurones. Et de cette manière, ça permet d'avoir plus de neurones, plus de connexions, et on sait que les maladies de vieillissement, c'est une perte des neurones ou une perte des connexions. Donc, si on augmente le nombre de neurones connectés, on va avoir plus d'occurrences possibles. C'est en ça que ça empêche le vieillissement ou ça le ralentit.
Est-ce qu'on doit se pratiquer à méditer? Est-ce que ça arrive comme ça en criant ciseaux?
Mais cela dit, le vieillissement cérébral, c'est surtout quand on ne fait pas de gymnastique cérébrale, c'est quand on ne fait rien de son cerveau. C'est-à-dire quand on regarde la télé, les feux de l'amour toute la journée comme ça, à rien faire et qu'on ne pense à rien, ça, on est sûr qu'il y aura un vieillissement cérébral. On peut obtenir de nouvelles cellules neuronales à n'importe quel âge, à partir du moment où on est stimulé.
Mais vous vous contredisez, docteur Baruel, parce que dans ce livre-là, ils disent qu'il ne faut rien faire, penser à rien, réfléchir à rien, puis là, on médite.
C'est autre chose.
Donc, la méditation, je comprends plus rien. Je suis perdu.
Oui, je vois bien, ma pauvre Catherine. Je vais vous remettre dans le droit chemin, vous allez voir. C'est en fait la méditation pour s'endormir, là, c'est le sujet, en fait, de cet article. La méditation pour s'endormir, ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas faire le bilan de la journée, ce n'est pas ça du tout. C'est en fait voir une image agréable. Par exemple, un arbre qu'on appellerait Georges. Et on s'imagine cet arbre et on le voit. Et on se concentre sur lui et il est là présent. Et il vous donne il vous envoie des bonnes ondes, entre guillemets. Et vous avez l'impression d'être heureux avec lui ou du moins avec une autre image. N'importe qui peut avoir une image qui lui plaise. Ça peut être aussi bien un nuage dans le ciel, ça peut être le visage d'un être aimé, ça peut être un beau brésilien.
Voyez-vous, ma conjointe qui est psychologue a eu des formations sur la méditation pleine conscience.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, puis elle, c'est une grande adepte de la méditation pleine conscience. Puis ça me demande des fois, Michel, à quoi tu penses? Je dis à rien. Puis c'est vrai, je pense à rien. Moi, j'ai cette facilité-là. D'ailleurs, l'été, là, je m'assois, j'ai une espèce de hamac fauteuil, un fauteuil hamac accroché après un de mes arbres. Puis moi, je m'assois, puis je regarde dans le vide, puis je pars. Tu sais, je me force pas, je me dis pas, je vais méditer. Non, tu sais. Moi, je tombe dans la lune.
C'est une méditation spontanée, ça.
C'est ça. Moi, je médite spontanément.
C'est ça, voilà.
N'importe quand. Idéalement, il ne faut pas le faire en conduisant, par contre.
Non.
Idéalement.
Ni en travaillant.
Mais tu sais, moi.
Il y en a qui le font régulièrement en travaillant.
Mais moi, je dirais que, tu sais, j'ai une facilité de tomber dans la lune. Je tombe dans la lune, là, des fois, là, mais c'est une forme d'admiration de la beauté de la nature. T'sais. La nature permet ça, là, tu sais. Tu regardes un lac, puis à un moment donné, t'es plus là, puis tu te forces pas, là, tu sais. Paf, ça part, tu sais.
OK. Et tout.
Puis là, des fois, je me fais déranger par un colibri, puis ça, c'est le fun, par exemple.
En fait, dans votre situation, vous êtes à la campagne, vous êtes dans la forêt. Donc, vous êtes en effet en face de vous-même, ce qui facilite les choses.
C'est ça, tout à fait. Puis sur le bord d'un lac, c'est la magie. Send me away.
Nous sommes toujours avec Michel Blanc et Catherine Bourderon. Michel Blanc, notre invité, qui donc est une transsexuelle et qui prend des médicaments. Elle prend un traitement, des traitements. Qu'est-ce que vous prenez comme traitement?
À part la massothérapie? Ah, ben c'est sûr qu'écoutez, j'ai des traitements, j'ai des petites boîtes de pilules, là. Je prends de l'estrace, qui est de l'estrogène. J'ai un anti-cholestérol. On contrôle ma pression. Et je prends aussi d'autres pilules pour mes gencives parce que j'ai une récession des gencives. Alors, c'est un médicament qui stoppe la récession des gencives, prescrit par mon... c'est ça que je prends. Puis aussi, moi, j'ai eu, par accident, ils se sont rendu compte que j'ai un rein qui est complètement atrophié.
On connaît la cause?
Oui, il semblerait que ce serait une naissance. Et mon autre rein a fait la job du rein atrophié. Mais ça arrive des fois, une fois par 2-3 mois, que j'ai des douleurs qui ressemblent à des pierres sur le rein. Mm-hmm. Alors, j'ai de l'oxycodone à volonté. mais évidemment, je pourrais me faire opérer si jamais la fréquence des douleurs augmentait. Mais comme ça arrive une fois par 2-3 mois, puis ça dure une journée, c'est pas
dramatique. On sait de quelle origine est le... En fait, il y a souvent des hypertensions qui sont d'origine rénale. Je dis ça, mais je ne sais pas si votre rein est dans cette situation-là.
J'ai vu un néphrologue, puis pour lui, il disait que c'était probablement congénital.
Congénital, donc, ce n'est pas en cause. Parce que souvent, lorsqu'il y a un rein qui n'est pas bien irrigué, sa pression baisse à l'intérieur, comme si le cœur ne marchait pas assez fort. Et il sécrète une hormone qui s'appelle la rénine, et qui sécrète elle-même, qui fait sécréter un produit qui empêche la diurèse. Et en fait, on urine moins. Donc, on augmente le volume sanguin de cette manière.
Oui. Mais savez-vous ce que vous dites? C'est intéressant. Je vais en reparler à mon médecin quand je vais la rencontrer.
Ouais, ouais.
Mais voyez-vous, moi, je suis juste sur le bas. Puis c'est ça qui est fourrant en même temps. C'est pour ça que je suis content de vous en parler. Parce que quand on parle de la pression, à partir de quel taux on fait de la pression? Et ces taux-là vont fluctuer en fonction des comités scientifiques sur lesquels siègent les pharmaceutiques. Et les pharmaceutiques ont comme intérêt à baisser le seuil où on dit que vous faites de la haute pression pour vendre des pilules. Alors,
En fait, la pression, c'est difficile de le savoir. Enfin, ça, on peut en parler, mais la pression est difficile à calculer réellement. Il faut la calculer soit le matin, soit le soir, soit les deux. Et réellement, pour avoir une valeur exacte de la bonne pression, il faut prendre 3 fois sa pression le matin, 3 fois sa pression le soir, sur 4 jours, et faire la moyenne.
Ou encore, faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire tu te promènes avec une machine toute une journée.
Ah, on peut faire un halter, ce qu'on appelle un halter.
Et ça, là, c'est chiant, là, parce que la machine te réveille aux 20 minutes pendant la nuit là, pour prendre ta pression. Là, puis
c'est quand même plus simple de prendre sa pression le matin et le soir. Mais ça, c'est quelque chose de très faisable avec une machine automatique. Une machine poignet qu'on pose sur le poignet, tout simplement, et on la met en route et on peut prendre 3 fois de suite sa pression le matin, 3 fois le soir. Et ça permet vraiment d'avoir... Parce que si on la prend dans la journée, on est dans les voitures, dans l'embouteillage, on est en train de s'engueuler avec sa compagne, on est en train de faire ceci, cela, on va forcément avoir des variations de pression monstrueuses. Ouais. Donc on peut pas...
Est-ce qu'il y a un lien avec la prise d'hormones et la tension artérielle?
Oui, la prise... Alors, classiquement, c'est vrai qu'on dit que les œstrogènes augmentent la pression artérielle. En réalité... pas toujours et pas tous. C'est-à-dire que les œstrogènes par comprimé peuvent augmenter la tension artérielle, alors que les œstrogènes qui sont pris en gel
dermal,
ont moins d'augmentation de la tension. Et il faut dire aussi une chose, c'est que lorsqu'il y a moins d'œstrogènes, par contre, il y a une augmentation de la tension artérielle. Lorsque les femmes ménopausées ont une augmentation de la tension artérielle, parce que les œstrogènes conservent la souplesse des artères. Et lorsqu'il n'y a plus d'œstrogène, les artères durcissent un petit peu.
Donc, on est plus à risque de faire des crises cardiaques après la ménopause?
Pas des crises cardiaques, mais tout simplement une augmentation de la tension artérielle avec les complications. Ça dépend tout à fait du niveau de l'hypertension.
OK, donc il faut se faire suivre quand on est ménopausé alors?
Bien sûr. Oui,
mais non, mais pour
la surveiller tension... régulièrement.
Ah oui, mais vous apprenez quelque chose?
Au moins une fois par an, oui.
Ah oui, au moins une fois par an, bah oui. Pas plus. Mais ça, c'est le propre des femmes ménopausées ou le propre des gens qui prennent des hormones?
Non, les hormones n'augmentent pas forcément la tension artérielle. On dit que les hormones de traitement substitutif augmentent la tension artérielle, mais non, c'est simplement parce que quand on est ménopausé, il y a une augmentation de la tension artérielle. Les œstrogènes vont même minorer légèrement cette augmentation de tension artérielle. Mais comme c'est parce que c'est les moments où on prend des œstrogènes qu'on s'aperçoit que la tension monte, on dit que c'est les œstrogènes qui augmentent la tension.
C'est ça. Puis moi, en fait, non. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que justement, pour pouvoir augmenter ma dose d'œstrogène, il fallait que j'aie une pression qui soit normalisée. Parce que si ma pression était trop haute, je ne pourrais pas prendre d'œstrogène.
Bah, tout dépend. Si la pression artérielle est contrôlée, on peut très bien prendre des œstrogènes.
C'est ça, tout à fait. C'est ça. Ce qui fait que moi, pendant, je dirais, 7-8 ans, du début de ma transition, j'avais des très, très faibles doses d'œstrogène. Ce qui fait que je suis moins féminisé que j'aurais pu l'être à cause des doses d'œstrogène. Mais finalement, à un moment donné, ben là, ils se sont rendus compte quand ils ont mis la machine 24 heures, là, que finalement, ma pression n'était pas si pire que ça. Là.
Voilà, donc on pouvait augmenter les doses. Mais est-ce que vous êtes, c'est les comprimés ou c'est les gels?
C'est les comprimés.
Comprimés, OK.
Oui, puis moi, j'aimerais ça être par injection, parce qu'il y en a aux États-Unis qui s'injectent. Puis moi, j'aurais aimé ça avoir de l'autre hormone, là, la progestérone, parce que la progestérone grossirait mes seins, grossirait mes fesses. Mais mon médecin n'a pas l'air de cet avis-là.
Non, il n'y a pas de raison.
Ben, dans la littérature des trans, ils prennent toute la progestérone, puis effectivement...
Oui, mais je pense que c'est quelque chose d'inutile en réalité, puisque c'est principalement... le but est utérin, alors qu'en fait, dans votre cas, c'est pas le cas.
Non, mais le but peut être aussi morphologique.
Mais morphologique, c'est l'œstrogène.
Oui.
Ben oui. Discutez-en avec lui, mais avec votre médecin, mais...
C'est une femme.
Ben oui, discutez-en avec elle.
Hey, soyez pas sexiste, docteur. Vous êtes médecin, femme aussi, là.
Mais il y a plus de femmes que d'hommes, médecin.
Bon, justement.
Je parle au nom de la minorité.
Ah, OK. Je pense que de plus en plus, les femmes prennent leur place.
Mais bien sûr.
Oui. Le docteur Maruel, là. Je vais du côté de Michel, moi, là.
La pression, la haute pression, en fait, il faut la contrôler. On peut la contrôler spontanément avec, ou du moins soi-même, en perdant du poids, en faisant du sport, en bougeant un peu.
Regardez-moi dans les yeux quand vous dites ça.
Oui, Michel, il faut que vous fassiez du sport.
Oui. J'ai commencé à faire le tour de mon lac, là.
C'est déjà pas mal.
Ouais, il est 4,4 km, puis 16 étages.
C'est bien, voilà. C'est bien. Bon, il faut commencer comme ça. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. Leave a night.
Merci Michel Blanc d'avoir été avec nous, c'est excessivement gentil.
Ah, ça a été très très grand plaisir, vous êtes une belle gang, j'aime le réalisateur, ça. Même s'il fait partie d'un mauvais parti politique, mais vous êtes un beau groupe, vraiment, c'est sympathique, puis le metteur en onde, que dire, son silence m'émeut.
Merci, alors merci à nos chroniqueuses et à nos chroniqueurs qui nous ont donné aussi le goût de la santé, Claudine Larivière, nutritionniste, Maître Laurent Trépanier Capistran, avocat et juriste à domicile, et le docteur Campbell, psychologue et sexologue.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien à la Liberté, à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications, et Catherine Bourderon et Benoît Racette à la recherche et à la réalisation.
Ici Catherine Bourderon
et docteur François Baruel, qu'on se le dise, être bien depuis l'intérieur et peu importe son genre,
c'est bon pour la santé.